8h10. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Des cas de noyades sont régulièrement enregistrés dans le fleuve Congo, les rivières et les lacs de la RDC. Au moins 11 personnes sont décédées et plusieurs autres portées disparues dans le naufrage d'une embarcation survenue dernièrement sur le fleuve Congo dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le non-respect des consignes de navigation serait à la base de ces accidents sur le fleuve Congo et sur les rivières et les lacs de la RDC. Comment bien réglementer le secteur de la navigation fluviale en RDC? Nous en parlons avec Monsieur Gabriel Mokango. Nous rappelons qu'il est directeur technique de la régie des voies à la régie des voies fluviales. Une fois de plus, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le directeur, quels sont les principaux facteurs d'après vous qui occasionnent des cas de noyades sur les cours d'eau de la RDC?
De prime abord, je pourrais dire que c'est le non-respect. Le non-respect de textes...
Dans la majeure partie des cas.
Oui, oui, qui réglementent les domaines de la navigation fluviale et lacustre. Ça, c'est l'élément principal. Mais à cela, on peut ajouter d'autres petits problèmes. Parce que quand on amène des analyses, à chaque fois qu'on enregistre des cas de naufrage des unités, et les états de lieu qui ont eu lieu permettaient la tautologie en juillet 2012, ont fait état qu'il y avait au moins trois aspects techniques qu'on pouvait faire ressortir à ceux. Le premier aspect, c'est pratiquement une trilogie, l'état mécanique des engins. Est-ce que ça répond aux normes?
L'état mécanique des embarcations.
Sûr, tout ça. Ça répond aux normes telles que c'est régi par le
et à dominant, ce sont des baleinières construites en bois, dans ça, des conditions peut-être qui laissent à désirer.
Des embarcations de fortune, si on peut le dire. Deuxièmement, c'est le problème de la défaillance ou déficience de balisage. Troisième élément, c'est l'homme lui-même, la qualification.
L'expertise est des armateurs.
Oui. Est-ce qu'ils ont des capacités requises pour pouvoir conduire des unités flottantes ou des embarcations sur le voie d'eau? Voilà si je peux résumer ces trois faits. C'est dedans qu'on peut aller voir est-ce qu'il y a eu respect ou il n'y a pas eu non-respect. Voilà ce que je peux dire à ce stade.
Est-ce que au niveau de la réglementation, parce que je suppose que le secteur est réglementé quand même, et les armateurs sont censés respecter les consignes de la navigation.
Le secteur est bien réglementé. Il y a deux textes. Le principal, c'est le code de la navigation fluviale et lacustre. Et à cela, il faut ajouter deux textes réglementaires, les arrêtés pris par l'autorité des tutelles qui est en charge le transport communication en RDC. Mais quand on apprend qu'il y a un naufrage, le rapport circonstancié qui arrive fait état le plus souvent de surcharge. Donc non respect de tonnage requis pour chaque embarcation. Prenons le cas du baleinier. Il faut voir, est-ce que ces baleinières sont construites souvent les normes? Vous dites si bien que c'est en bois. Mais ces bois ne sont pas traités. Parce que quand on parle traité, le bois est mis dans un bain d'huile pour assurer l'étanchéité. Et au point de jonction de bois, on met de ce qu'on appelle le fil à chanvre avant de revêtir la tôle et mettre le bitume. Mais nous, on met des feuilles qu'on emballe le
chiffon. Ça, c'est pour éviter la dégradation du bois rapide.
C'est ça. Et puis, quel est le tonnage? Quel est le tonnage? Parce qu'à mon humble avis, une embarcation, une baleinière, de 10, 20, 40 tonnes maximum peut présenter beaucoup de stabilité. Mais au-delà, non. Au-delà, non. Il y a beaucoup de points de flexion et ça risque de plier. Mais il faut voir, par exemple, le cas qui s'est passé sur le lac Maindombe. Tout le monde a appris par la voie de presse qu'il y avait plus de 200 personnes. Et nous nous demandons quelle est cette baleinière qui peut embarquer plus de 200 personnes
avec des marchandises, et des détails.
Et nous nous trouvons dans un lieu lacustre qui est soumis aux intempéries. Mais à ces jours, à moins qu'on contredise, nous n'avons pas d'instruments de mesure au sol, même qui permettent à partir des images satellitales de faire des prévisions sur le lac que nous avons ici chez nous. On se fie aux connaissances empiriques de personnes de troisième âge, des initiés, qui peuvent scruter le ciel, qui peuvent toucher l'eau pour connaître la température et vous dire vous pouvez aller, il n'y a rien, vous faites attention et vous risquez d'être surpris. Or, nous devons faire une prévision qui soit scientifique pour que les gens sachent que d'ici quelques temps, le mauvais temps va survenir.
Il y aura des intempéries.
Il y aura des intempéries. Parce que ce soit sur le lac Kivu, que ce soit sur Maindombe, c'est suite au mauvais temps qu'il y a eu. Et à cela, il faut ajouter la surcharge.
Mais là, il est de la responsabilité de la RVF pour planifier tout ça.
Bon, il faut dire que l'État a donné de responsabilités à chaque service.
Mmh.
Nous, la RVF, nous nous occupons de l'aménagement et la traité de voie d'eau. Tout ce qui régit l'inspection de la navigation relève de la compétence de la direction de la marine et de voies navigables, qui est suffisamment représentée sur tous les territoires. Là où il y a des cours d'eau, nous avons des commissariats fluviaux et lacustres. Et à chaque port d'attache, il y a un chef de poste. Donc aucune embarcation ne peut quitter ce port sans qu'il y ait contrôle du préposé.
Donc nous supposons qu'il y a une certaine négligence dans les contrôles. Les commissaires fluviaux ne sont pas assez rigoureux.
Bon, ça aussi il faut s'y pencher, dire que nous devons regarder par deux fois. Est-ce qu'il n'y a pas de négligence? Est-ce que tout le monde prend au sérieux son travail? Quand bien même il peut y avoir des gens à quitter un port, il l'a chargé normalement, mais pendant
le long
du
parcours,
il embarque le gens.
Des pirogues qui viennent avec des passagers, tout ça, oui, avec des marchandises.
Oui. Mais il est fait que, à quitter un port, s'il fait escale quelque part, à cet endroit, s'il y a un poste de contrôle, on doit voir. On doit voir. Parce que la plupart des cas, suivant la construction naval, les gens ne respectent pas la marque de franc-bord. Cette marque permet de limiter la capacité commerciale du chargement et laisser une réserve de flottabilité pour qu'en cas de mauvais temps, le bateau puisse respirer, flotter. Mais quand vous dépassez cette marque, il fait que c'est comme vous avez mangé suffisamment, vous avez difficile à respirer. Ce qui fait que le bateau n'a pas de réserve de flottabilité. Et sur le lac, vous avez des amplitudes entre le creux et le pic qui peuvent aller de 2 à 3 mètres. Donc vous voyez, vous remontez le pic, quand vous redescendez avec votre surcharge, c'est comme ça. Vous plongez comme un sous-marin et on déplore de cas de naufrage et qui sont accompagnés de pertes en vies humaines et en biens.
En RDC, ici, il y a l'École nationale de navigation qui forme des commandants de bord, des techniciens, des matelots. Ben, est-ce que ces personnes ressources font défaut parce que vous avez posé un problème d'expertise?
Bon, si l'école a été mise en place, parce qu'il y a eu un constat amer que le personnel navigant avait vieilli et qu'ils étaient bons pour aller à la retraite, il fallait le remplacer.
Préparer la relève, le remplacer. Voilà.
Et comme ça, on a mis en place cette école qui est une école régionale de formation. Et ils en sont, si je m'abuse, à leur deuxième ou troisième promotion. Et nous-mêmes, nous avons un nombre important de stagiaires, parce qu'après la formation théorique de 3 ans, ils doivent aller en stage
pratique
sur terrain pendant 2 années, avant de venir devant un jury. Bon, donc nous pouvons dire de ce côté-là, on a essayé un peu de colmater le brèche. Mais il se pose aussi un autre problème. Parce que de par le code de la navigation fluviale, c'est le commandant qui est le maître à bord. Mais depuis que l'aspect commercial a pris le devant par rapport aux aspects de la navigation, qui sont des aspects techniques, c'est le gérant. Et il privilégie le fret. Quand le commandant dit non, d'après le chargement, mon tirado ne permet plus que...
D'ajouter des marchandises.
Bon, il est mal vu. Il suffit que le gérant fasse les rapports.
Oui, le commerçant lui vise les recettes. Bon, donc,
donc le mercantilisme est à la base aussi de ça. Donc il faut que les uns et les autres soient rappelés à l'ordre pour qu'il y ait respect et réglementer ce secteur.
Donc l'absence de l'État dans le secteur aussi, parce que lorsqu'il y avait d'embarcations de l'État, à l'époque de l'UNATRA, il n'y avait pas assez de cas de naufrage. Maintenant, c'est le secteur est occupé par des particuliers et c'est ce qui sera à la base de ces cas de noyade à répétition à travers le pays.
Bon, je pourrais dire que l'État n'a pas mal fait de libéraliser le secteur. Nous sommes dans un monde en évolution. Il faut privilégier le partenariat public-privé. Et l'État a libéralisé le secteur. Mais le grand problème que nous déplorons, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement. La loi existe, on a libéralisé, mais il fallait de mesures d'accompagnement. Les gens qui entrent dans les secteurs, il faut leur dire, il faut ça, 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 ça. Ils doivent savoir. Il ne faut pas que nous voyons comme maintenant le vieil barge de la SCTP ex-Onatra hors trafic qu'on a déclassé. Les gens vont récupérer ça. Tout de suite, ils mettent ça en service. Bon, c'est sur ce barge-là dont les coques ou l'état mécanique
ne répondent plus aux normes.
Tout ça. Et le monsieur... Le peu de capital qu'il avait, il a déposé.
Investi, pour... Et après, il est pressé pour récupérer son capital.
Non. Donc, il faut de mesures d'accompagnement. Et il faut qu'on soit regardant pour que les agents qui sont des agents de mort ne naviguent plus sur nos cours d'eau.
En même temps, les voyages sur les cours d'eau, c'est le moyen de transport le plus efficace pour la population congolaise pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez de... Le pays n'est pas relié par des routes. Il y a la voie aérienne et la voie fluviale, c'est vraiment à moindre coût.
Oui, il faut voir le revenu de la population. Tout le monde n'a pas accès au transport aérien qui coûte. Même pour le véhicule, il n'y a que le bateau qui peut transporter de gros tonnages. Il n'y a que le bateau qui offre des prix qui soit à la portée de la population. Mais il faut savoir aussi que cette voie a fait le bonheur de la métropole. Le voie d'eau était de voie qui contribuait au développement socio-économique du pays. Là où le voie d'eau était non navigable, on a relié ça par le chemin de fer. Donc tout converge vers le port, et c'est à partir des ports qu'on transporte les gros tonnages. Donc nous devons tout faire pour faire la promotion de ces voies d'eau, mais tout en faisant respecter le texte qui existe. C'est comme pour le véhicule, à un certain moment, on dit contrôle mécanique pour qu'il n'y ait pas de
contrôle technique automobile.
Oui. Donc, il en est de même pour les embarcations qui naviguent sur nos cours d'eau. Il y a des contrôles, il y a des inspections, des inspecteurs de la direction de la marine pour voir l'état mécanique de chaque engin. Et le commissaire fluvial a l'obligation, c'est un OPJ, de dire que vous ne prenez pas le départ, parce que je constate que votre bateau ne répond pas aux normes, ou ça constitue un risque. Veuillez me réparer telle partie avant de... Et en plus de ça, le texte dit que le nombre de personnes embarquées, l'armateur doit assurer, mettre à leur disposition, du gilet de sauvetage. Mais il n'y a pas de gilet. Parce que ne fût-ce que si chaque passager avait son gilet de sauvetage, on pouvait éviter le nombre de morts que nous enregistrons maintenant. Donc, on revient toujours au non-respect de tout ce qui existe.
Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-6394 et au numéro 081-890-6394.
Oh, Mario, tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Merci de rester branché à la Radio Okapi. Vous suivez en ce moment les magazines Okapi Service qui s'intéressent à la problématique des cas de noyades sur les cours d'eau de la RDC. Nous allons donner la parole à la première vague des auditeurs. Jonas Kabinda, vous nous appelez de Kananga. Bonjour.
Bonjour à tous Okapi. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, merci. Nous commençons par présenter nos condoléances les plus appréciées à toutes les familles éprouvées par noyade et à l'est du pays.
Mmh.
Bon, ce qui fait mal, c'est que nous constatons que il y a beaucoup de morts et les gens n'en font pas un problème. Alors que nous sommes en train de perdre au jour le jour les vies humaines, qu'on ne peut pas se dans un marché. Le ministre provincial que vous avez invité récemment sur, dans l'émission Dialogue entre Congolais avait fait un aveu d'échec. Il ne savait pas les tonnages qu'on transporte par bateau, par navire équateur. C'est pourquoi je vais demander à l'invité, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de service chargé des contrôles des tonnages du côté de l'Est où il y a des chavirements à tout moment? Et en plus, pourquoi lorsqu'on sait qu'il y a déjà des tonnages, il y a déjà la cargaison transportée par le navire a un grand poids, il n'y a pas moyen d'éviter de se rajouter les vies des peuples, les personnes au-dessus de la cargaison, et on ne fait que surcharger, on met les gens ensemble avec des marchandises et après c'est les chavirements. Et puis pour terminer, ceux-là qui conduisent les navires, sont-ils des amateurs ou des professionnels? Et si ce sont des professionnels, comment ils ne savent pas éviter tout ce dérapage alors que ça arrive toujours dans les mêmes circonstances et toujours dans les mêmes lieux? Merci beaucoup, monsieur Radio Okapi.
Je vous en prie, cette fois-ci, donnons la parole à monsieur Kongolo, à monsieur William, il nous appelle depuis Kongolo. Monsieur William, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également à l'invité.
Quel est le constat fait au niveau de cours d'eau de Katanga de Mambré? Est-ce que les armateurs respectent les normes d'embarcation, les normes de navigabilité?
On dirait non, ils ne respectent pas, parce que vous voyez monsieur le journaliste, les transports maritimes au Congo restent une question tabou. Parce que j'aurais bien voulu préférer que les autorités administratives insistent sur l'éducation civique de la population. Parce que la population, elle aussi, doit tenir compte de savoir quel engin je vais utiliser, quelle baleinière je vais utiliser. Et puis, j'aurais bien voulu préférer que les autorités également insistent sur la matière de fabrication. Hein, la matière de fabrication de toutes ces baleinières-là. Ça peut aussi poser des problèmes. Enfin, j'aurais bien voulu préférer aussi que les services de l'État. Compétents, ils sont chaque fois. Lorsque je me rends à notre petit port ici, de Congo, je trouve qu'il y a beaucoup de services de l'État qui sont proches, mais quelque part, ils ne respectent pas les tonnages. Hein. Vous voyez, le surchargement est aussi la cause des accidents.
Merci beaucoup pour votre constat. Donc, l'État doit veiller à l'éducation de la population, l'éducation de la population, et puis il faut que les services également veillent aux normes requises pour éviter ces genres de d'incidents sur les cours d'eau de la RDC. Ça, c'est l'avis de William depuis Congolo. Monsieur Gabriel, monsieur Jonas qui nous a appelé depuis Kananga, il a dit qu'il y a une certaine faiblesse au niveau des services de contrôle.
Bon, je ne saurais pas dire d'emblée comme ça qu'il y a une certaine faiblesse, mais c'est ce qui se constate sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une unité qui apparemment ne présente pas un bon état puisse quitter son port d'attache et naviguer, alors qu'il y a des autorités. Comme ils ont dit, dans chaque port, nous avons tous les services compétents pour veiller à ça. Donc, si on faisait respecter le texte et faire parler le texte, on pouvait éviter tous ces cas que nous déplorons. Le tonnage. Il parle, oui, il y a un service qui contrôle le tonnage. Mais vous devez savoir que le constructeur de l'embarcation, c'est lui qui
détermine
le tonnage,
À respecter.
Suivant le dimension que vous lui avez donné.
Ouais.
Et cela est consigné dans le certificat des jaugeages. Cela est consigné dans le certificat de jaugeage. Donc, quelque part, avant le départ, l'armateur qui est le propriétaire peut venir lui-même se présenter au commissariat. Si pas lui, il peut déléguer les commandants ou son gérant avec les documents. Donc, à cela, il y a le document, le certificat de jaugeage, pour voir le tonnage qui est inscrit, mais il y a aussi le certificat de navigabilité. Qui est renouvelable. Je crois bien que c'est semestriellement qu'on met un visa pour dire que, après visite, on a vu que cet engin présente de bonnes dispositions pour pouvoir faire la navigation. Donc, ce service doit veiller en regardant ces documents de base qui sont des documents du propriétaire. Est-ce que c'est conforme à ce qu'il voit réellement? Si la baleinière a un tonnage de 20 tonnes, mais vous constatez qu'il est allé au-delà. Vous lui dites, oui, je vais vous autoriser de naviguer, mais je vous demande de vous dépouiller de surplus.
Le surplus, l'excédent.
Oui. Et quand vous aurez un tonnage
normal, requis,
vous allez prendre le large. Voilà comment que ça se fait.
William aussi a évoqué l'aspect de la sensibilisation, l'éducation de la population, parce que dans les ports, tout le monde est pressé de partir, d'embarquer pour arriver à destination, et parfois les armateurs n'ont pas le choix parce que aussi ils veulent générer des revenus, et c'est là est aussi à la base de tout ce que nous vivons sur nos cours d'eau.
Bon, nous devons faire la part des choses. On ne peut pas aimer une chose et son contraire à la fois. Moi-même, plusieurs fois, je fais de visites à l'intérieur pour voir l'état du balisage, pour suivre le bateau baliseur. Je remarque ça. Il y a des coins où ils peuvent passer 3 mois, 6 mois, ça qui est une embarcation. Aussitôt que la première embarcation se pointe, c'est tout le monde qui veut prendre place à bord. Et parfois, l'arbateur est de passer. Mais il y a aussi des autorités qui viennent parce que tout le monde veut que son cousin, son fils
voyage.
Il s'impose. Et plusieurs fois, je vis ça. Dernièrement, il y a un armateur qui a relevé. Il était à Boteka, ex-Flandia, sur la rivière Momboyo. Ces bateaux n'est pas censé transporter les passagers. Mais les autochtones ont dit non.
Vous ne quittez pas les beaches sans pour autant prendre des passagers.
Les commandants
qui avaient des marchandises
pour partir, qui a enlevé le bateau, mais il a été rejoint en pleine navigation par des pirogues chargées au point qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il est rentré au point de départ, au port, et il a intéressé les autorités, mais il y a une bagarre qui s'est suivie. Et une bagarre qui a fait que entre les autochtones et les policiers et l'équipage du bateau. Donc le commandant a dû faire fuir le bateau. C'est là où on rejoint l'idée de deuxième...
Monsieur William, de Congolo, oui.
L'éducation de la population. Qu'est-ce qui est plus cher pour vous? Vous embarquez où vous mettez votre vie en péril. Vous pouvez manquer cette occasion et attendre
une autre opportunité pour voyager dans de bonnes conditions.
Et il y a d'autres qui font fi. Ils font des radeaux. Ils prennent deux, trois pirogues, ils mettent sous forme de catamaran. Et avec un support, et ils naviguent. Or, ces cours d'eau sont sinueux, beaucoup de méandres, et on déplore toujours des cas d'accident. Parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils tiennent coûte que coûte.
Tout le monde tient à partir, à tout prix, à arriver pour vendre la marchandise à Kinshasa, à Mbandaka.
Dans de grandes agglomérations, tout ça, c'est faire un peu de moyens. Donc, il y a une éducation qui doit être faite auprès de la population, mais les autorités aussi doivent savoir que eux, ils ont le péril, ils doivent faire respecter les textes. En dépit de tout ce qu'ils peuvent encourir comme menace ou quoi, dire que non, si vous continuez toujours à persister, ces bateaux ne quittera pas.
Monsieur Glody, vous êtes à Banounouville. Dites-nous, quel est le constat que vous faites au niveau des ports de Banounouville? Monsieur Glody, vous êtes en ligne, bonjour. Malheureusement, Monsieur Glody n'est plus en ligne. Monsieur Gabriel Mokango, il y a aussi un problème des balisages et des indications les long des cours d'eau, des bouées pour indiquer les armateurs où est-ce qu'il faut naviguer, où est-ce qu'il ne faut pas faire passer l'embarcation. Est-ce que vous revoyez régulièrement, vous faites régulièrement le balisage et vous revoyez régulièrement ces panneaux des signalisations les long des cours d'eau, dans les cours d'eau de la RDC?
Bon, nous ne pouvons pas avoir un sentiment d'autosatisfaction, mais nous disons que depuis un certain temps, vous n'entendez plus de plaintes des armateurs, parce qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait sur le terrain, notamment sur les axes principaux, le fleuve Congo et la rivière Kasaï, dans le cadre de projets d'appui à la navigabilité de voies fluviales et lacustres, financé par l'Union européenne, et la contribution de l'État congolais, mais également les efforts propres de la RVF, qui a pu, dans un premier temps, recruter les jeunes gens qui ont été formés, ils ont suivi des modules spécifiques au centre, et ils sont maintenant sur le terrain. Et nous faisons un travail de fond, on a commencé par la bathymétrie, parce que les études précède le travaux de balisage.
Oui.
C'est seulement à l'issue de études que nous avons menées sur le terrain qu'on a pu placer le balisage. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui naviguent peuvent dire on a remis en état le balisage fixe qui n'existait pas depuis plus de 3 ou 4 décennies. Maintenant, il y en a. Nous avons mis en place des balises flottantes lumineuses. Aux endroits où il y avait des balises en maçonnerie qui, certains sont en ruine, en destruction, mais nous avons mis en place de grosses balises qui soient visibles et à la tombée de la nuit, ça clignote. Nous, maintenant, nous restons pour faire le balisage mobile parce que en dehors des zones de passe rocheuse, nous avons aussi des passes divagantes où le banc de sable soit en
perpétuellement.
Alors, il faut un balisage mobile. Et nous sommes entrés dans la période de basse saison, le tillage. C'est là où le problème de navigation sont vraiment cruciaux. Mais nous allons faire ce balisage parce que le moyen existe. Le moyen existe. C'est comme ça, vous attendez qu'il y a moins de plaintes. Mais ce n'est pas tout le réseau que nous avons. Parce que nous devons contrôler un réseau de plus de 15 000 km. Et les deux projets n'ont pris à peu moins de 5 000. Donc il y a des cours d'eau qui sont encore restés. C'est là où nous demandons que le gouvernement nous vienne en aide parce que nous devons désenclaver, surtout avec la répartition de nouvelles provinces.
Oui.
Il y a des provinces qui sont entièrement enclavées et le même cours d'eau coule dans 2, 3, 4, 5 provinces. Donc nous devons arriver à pouvoir baliser ces cours d'eau pour permettre à ces provinces de pouvoir se développer et développer aussi leur population. Donc de ce côté-là, nous ne disons pas que c'est à 100%, ok, c'est une œuvre humaine, mais nous sommes permanents sur le réseau pour surveiller.
Il y a aussi un travail de recyclage des armateurs, parce que oui, c'est bien beau d'installer des panneaux de signalisation, mais si les armateurs ne connaissent pas interpréter les messages qui renvoient ces panneaux installés dans les cours d'eau, et ça sera toujours compliqué pour eux d'éviter des incidents dans des endroits où ils sont censés ne pas passer.
Monsieur le journaliste, vous touchez un point sensible. Moi-même, j'ai vécu ça. J'étais sur l'eau là-bas. Les gens naviguent sur l'eau là-bas. A vu. Ils n'ont jamais vu le balisage. Quand nous sommes allés faire le balisage, ils étaient étonnés. Personne ne pouvait en donner la signification. Et il en est de même dans beaucoup de cours d'eau. C'est comme ça.
Alors qu'ils sont dans ces métiers il y a beaucoup d'années,
mais
ils connaissent
ils
pas
interpréter.
Ils
ne savent pas interpréter. C'est comme le code de la route. C'est comme ça que le projet PANAV a dit le faire déplacer pour venir à Kinshasa, ça risque de coûter cher. On a recruté des formateurs qui vont vers eux. Et dernièrement, moi-même j'étais à Bandundu, on a réuni plus de 150 navigants à qui on a donné des cours. Des cours, et il y a eu des séances à bord du baliseur, pour qu'ils puissent interpréter les signaux de balisage. Et dernièrement, le secrétariat général de la SICOS, quand je dis SICOS, c'est la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, ont été accalmés. Ils ont donné aussi une formation, et concomitamment, parce qu'il y a aussi des ports là-bas, ils ont livré aussi des équipements pour le port, des infrastructures portières, ils ont donné aussi la formation aux gestionnaires de ports. Et dernièrement, ça sera à Mbandaka et à Kisangani, il y a eu lieu aussi. Donc voilà comment on essaye. Mais l'école existe, les armateurs qui sont les propriétaires de bateaux peuvent demander des modules spécifiques pour eux, comment gérer une unité, comment faire la prévision d'une unité, quels sont les textes des lois qui régissent le secteur. Il pousse à... Un armateur ne peut pas manquer les documents. Il doit avoir le code de la navigation. Il doit avoir le test qui réglemente le milieu. Et chaque fois, il doit lire.
Il doit réviser la matière.
La matière, tout ça. S'il trouve que son personnel n'est plus compétent, c'est à lui de voir.
Pour envoyer le personnel au recyclage.
Au recyclage. S'il a acquis une nouvelle unité ou une nouvelle embarcation, c'est un investissement sur de l'argent.
Oui.
Il doit arriver à amortir ça. Mais il doit prendre toutes les précautions. Et le personnel qui sont là-bas sont à même de conduire cette embarcation. S'ils trouvent qu'ils ne remplissent pas, ils n'ont pas de compétences, de capacités, ils doivent chercher d'autres personnes. Voilà, c'est un travail que tout le monde doit faire pour que nous puissions assurer la pérennité de ce secteur.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 081-890-694 et au numéro 099-706-6394.
Au Capi Métissage, fais le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Au Capi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Capi.
Nous souhaitons la bienvenue à M. Glody Bonganga qui nous appelle depuis la ville de Bandundu. M. Glody, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs des radios de la paix.
Quel est le constat que vous faites dans les ports fluviaux de Bandundu-Ville? Est-ce que les armateurs respectent les normes d'embarcation des marchandises dans leur barque?
Non, ici vraiment les constats faits dans la ville de Bandundu, il y a vraiment des choses qui ne marchent pas. Par contre, vous pouvez voir des anciens pirogues depuis la belle époque. Jusqu'aujourd'hui, ça continue toujours à travailler. Mais on ne sait pas, dans le niveau de port, il y a des services de RVF qui existent. Mais on ne sait pas quel est le travail de RVF fait actuellement. Ça, on ne le sait pas. Alors, c'est un peu quand même bizarre, parce que nous devons faire un peu les études qui sont sérieuses, de trouver des pistes de solutions concrètes, parce que il faut faire d'abord l'étude normale de savoir quel est le problème qui est à la base des naufrages qui se fait actuellement dans notre pays. C'est ça d'abord que nous pouvons faire des constats. Il y a encore un constat que j'ai fait ici dans la ville de Bandundu et ses environs, ce qui est, il y a des commandants fusuels que vous avez placés depuis la belle époque jusqu'à aujourd'hui, continuent toujours à travailler. Alors, ils sont déjà habitués avec des amateurs. Qui est amateur parce qu'ils savent que ça, c'est un tel. Ah, un tel, comment? Ils donnent l'argent, ils passent et ils n'arrivent même pas à contrôler le document. Moi-même, je suis le témoin. Je voyageais depuis Lou jusqu'à Bakata. Je vécu ça dans de différentes ports. Alors, vous pouvez voir un peu ces situations-là. Si vous pouvez faire un peu des permutations, ça va être vraiment une bonne chose. La seconde chose, c'est que vos agents ne sont pas sérieux, ne tiennent pas compte par rapport au tonnage, par rapport au réseau de marchandises, parce qu'il y a des bannières qui naviguent, même si dans la ville de Bandundu, les bannières trop chargées, donc on n'arrive pas à comprendre. Les gens sont là au niveau de marchandises, donc je peux dire les tirandais 00, je ne sais pas si j'ai bien employé le mot, parfois quelqu'un qui est au niveau de bannière, et puis il touche de l'eau par main comme ça. Alors c'est pas quand même sérieux, pensez-vous de sérieux problèmes, donc c'est un peu bizarre. Donc, la seconde chose, c'est que j'ai voulu poser la question à mes sous-invités.
Allez-y rapidement.
Oui. Lui, il est le chef par rapport à ce service-là. Il peut se donner quand même des solutions qui sont concrètes. Parce que là, il faut pas seulement condamner les amateurs, il faut aussi condamner la population. Parce que quelqu'un qui sait bien que l'état des choses ici n'est pas bien, comment est-ce qu'il peut monter? Alors, je demande à l'invité de donner un peu de solutions concrètes pour que... Comment tester pour savoir que cet engin est bon ou est mal? Il peut donner quand même des catégories, tout ça, on peut savoir, voilà. Il peut, comme la radio Capu, aux radios nationales, on peut sensibiliser la population de Tabati. Il dit par exemple que voilà, pour voir un bon bannière, voilà, il faut tenir compte de ça, comme ça. À partir de la radio Capu, la population peut être sensibilisée et à la prochaine fois, on ne va pas accepter encore des accidents de naufrage. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire. Donc je vous remercie.
Merci beaucoup Glody Boranga. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Bandundu. Monsieur Gabriel, que dites-vous à Monsieur Glody qui remet en cause au fait les travaux faits sur terrain par la RVF? Et il dit également qu'il y a des commissaires fluviaux qui ont tissé des liens de familiarité avec des propriétaires des baleinières et il y a parfois complaisance dans les contrôles.
Merci, je remercie M. Glody qui nous a appelé de Bandundu pour sa contribution. Il lui relève de faits qui sont réels, mais quelque part, il fait un peu de confusion. Je voudrais aussi dire pour lui et pour les autres auditeurs qui nous suivent de faire la part des choses. Il y a une différence entre la régie de voies fluviales et la direction de la marine et de voies navigables. La régie de voies fluviales a pour mission l'aménagement et l'entretien de voies d'eau. En sus de cela, il y a d'autres tâches qu'elle exécute. Le contrôle, l'inspection revient à la direction de la marine. Pourquoi? L'État n'a pas voulu que la RVF soit juge et partie.
Est-ce que le service de cette division est déployé dans tous les ports fluviaux?
Je vous ai dit tantôt que partout vous trouvez des commissaires fluviaux. Les commissaires fluviaux
dépendent de la division. Pas, okay.
C'est la direction de la marine. C'est une direction qui appartient au secrétariat général de transport
et pas de communication. Okay.
Nous collaborons avec eux parce que nous tous nous sommes dans le même secteur. Mais ne dépendent pas de nous administrativement. Il a dit qu'il a fait un constat, mais oui, c'est tout à fait normal. Mais je dois dire ici, parce que cette mission a un caractère pédagogique. Les embarcations en bois, comme au début de l'émission, j'ai dit, ces bois ne sont pas traités. La durée normale, c'est 3 ans.
Et peut-être ces bois d'œuvre ne sont pas aussi adaptés à la fabrication des embarcations.
Okay. C'est après, s'il y a des entretiens périodiques, on peut aller à 5 ans. Mais pas au-delà de 5 ans. Par exemple, la baleinière qui a coulé sur le lac Maïndombe, on a parlé de 7 ans. Donc, c'est déjà une embarcation que vétuste. Alors, s'il met, il pointe de l'index les commissaires fluviaux, ils ne sont pas des commandants, mais ce sont des commissaires fluviaux qui sont au port. C'est bien vrai. Parce que eux, quand on vient solliciter le permis de sortie pour que l'embarcation quitte
les ports,
l'armateur ou son préposé présente les documents.
Et lui, il vérifie la conformité.
Il vérifie, il voit la date de construction, la date de la mise en service. Il peut dire non, cette embarcation a déjà atteint la durée de vie normale. Tant qu'il n'y a pas eu d'autres travaux d'entretien, je ne vous autorise pas. Bon, il y a même deux unités en tôle navale. La tôle qui est dans l'eau, comme il y a de l'oxygène, ça corrode. Le fond de la tôle, si il était avec des tôles de 6 mm, au bout de 2, 3, 4 ans,
ça va s'améliorer. Oui.
C'est comme ça, l'État a prévu, au bout de 5 ans, il faut aller en cale sèche. Il faut faire sortir l'unité en dehors. À sec, il y a des gens qui sont habilités, il y a des instruments qui permettent
de
dire que non, le PCR là n'est pas le PCR initial. Donc il faut cariner. Ou dire que la baleinière ici, nous avons trouvé telle plage pourrie, laisse infiltrer de l'eau. Il faut enlever cette plage et remplacer.
La remplacer.
Mais c'est une chose qui ne se fait pas. Donc c'est là où il faut mettre le doigt pour qu'il y ait au respect de tout ce qui est prévu, les dispositions prévues dans le code. Il a dit qu'il y a familiarité. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a fait 10 ans, il devient familier. Il ne peut plus sanctionner, il ferme les yeux. C'est comme ça l'État a prévu. Là, le mandat est de 3 ans. Au bout de 3 ans, on doit permettre. On ne vous révoque pas, on ne vous licencie pas, mais on vous permet, on vous met ailleurs. Ça peut être dans la même province, comme ça peut être dans une autre province. Ouais. C'est toujours le même ministère de transport, donc rien n'a changé. C'est pour casser cet aspect de familiarité. Parce qu'à la longue, personne ne va contrôler personne, et ça devient une affaire de famille. Or, l'État est là pour garantir, pour faire respecter la loi. Et il n'y a pas question de mettre la vie des gens en péril parce que c'est mon frère. Donc, je crois que les autorités qui nous suivent et peuvent prendre des mesures parce que cette disposition existe. On peut permettre le personnel, donc ce n'est pas un problème. Bon, il a dit que les agents sont moins sérieux, ils voient comment on charge. Bon, moi-même, je passe de temps en temps à Bandundu, je vois. C'est déplorable. Mais tout le monde, c'est question d'éducation, comme on a relevé ici. On doit le faire. Mais les contrôles et inspections sont prévus par le code. Il y a des contrôles et inspections périodiques. L'armateur peut demander, sur base d'une réquisition, comme aussi le préposé de l'État doivent faire de descente. Ça entre dans le cadre de leur travail quotidien pour voir l'état des unités. Mais il y a à boire et à manger.
Et il faut le dire aussi, il faut le préciser que ces unités aussi ne sont pas assurées. Hein. Donc en cas d'incident, généralement les victimes ne sont pas indemnisées et chacun se débrouille à sa manière au fait.
Ça c'est aussi un autre aspect de problème. Parce que l'unité elle-même doit être assurée. La marchandise transportée doit être assurée. Le passager. C'est là où l'armateur qui a souscrit une police d'assurance, on lui dit vous transportez 10 personnes. Mais comment sur le manifeste,
vous avez 50 personnes passagers.
Mais on dénombre 200 personnes, des cadavres repêchés, sans tenir compte de rescapés. Donc c'est là où il y a problème. Donc les gens ne respectent pas le texte qui registre le milieu. Parce que moi, je sais que je souscris une police d'assurance de 10 personnes. Je ne peux transporter que 10 personnes.
Oui.
Parce que dans le document contrôlé, vous avez la liste d'équipage, mais vous avez aussi la liste de passagers qui sont présentés au niveau du commissariat pour obtenir le permis de sortie. Donc, si quelque part, on était trop regardant, on faisait respecter le texte de loi, je crois qu'on éviterait, si pas à 100%, mais à 90%, tout ce que nous déplorons.
Nous retournons à Bandundu pour donner la parole à M. Malonga. Bonjour.
Oui, constaté, il y a beaucoup de journalistes, il y a tout ce qui nous suit.
Vous intervenez depuis les Bandundu-Ville. Dites-nous, quels sont les constats que vous faites en ce qui concerne la navigation dans cette partie du pays?
Ok. Le constat que je constate ici, c'est la faiblesse des services vraiment appropriés aux voies fluviales. C'est ça. Puisque, réellement, chaque voyageur a toujours besoin de partir avant. Mais s'il y a l'ordre, moi je voyage souvent par voie aérienne, l'aéroport, on suit vraiment la liste de ce qui était avant. Si on voit que non, cet appareil porte à bord 12, seulement 12, et pourtant des kilos. Mais si le voie fluviale s'attire, je vois en tout cas, on va toujours déplorer ces cas-là. Pour 1000 francs, pour 500 francs, un service, un marin, ou bien service, n'importe quel service maritime là-bas, va vraiment donner la vie à des milliers de milliers de personnes. Il y a des corruptions, il y a des matchs, et puis on suit, et on suit de tous les services de l'État qui travaillent au port, on voit vraiment une balinière, ou bien un bateau, ou bien une pilote, sortir dans un état vraiment risquant. Et puis on laisse partir là-bas. Et puis il y a un accident là-bas, oui, il y a ceci, celui, il y a ceci, il y a ceci. Ce commentaire-là, nous le fatiguons. Il faut qu'on renforce dans ce service-là un rigueur et une surveillance. Il ne faut pas que si vous êtes sur un voyageur qui parte, c'est bien. Non. Vous pouvez le satisfaire, il parle, mais s'il meurt encore, c'est les conséquences. Donc il faut un renforcement dur au niveau de port pour anéantir à ces accidents.
Merci beaucoup, M. Malonga. Vous vous décriez, au fait, la faiblesse dans les contrôles et les agents doivent renforcer, au fait, le contrôle sur terrain. Donnons cette fois-ci la parole au tout dernier auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kalemie. M. Mutombo, bonjour.
Bonjour, M. le journaliste. Je dis ceci. Bon, tout ça, on voit le cercle de l'État. Vous arrivez au port de Kalemie, vous trouverez un bateau qui peut transporter 50 personnes. Le maritime vous arrive avec une liste de 10 personnes. Le militaire avec 50 personnes. Le policier avec ça. Le pasteur, le gouvernement. Si l'État prenait à charge, construisait des bateaux, l'État nous donnait des camions, l'État avec le train, tout ça, c'est le cercle de l'État. Ils ne font pas condamner les armateurs, ils font d'abord condamner l'État. En plus de cela, les armateurs ne doivent pas chercher des documents. C'est l'État qui doit ouvrir des bibliothèques où les armateurs peuvent aller chercher des modules. Je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Mutombo. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kalemie. M. Gabriel, je vous donne la parole. Qu'est-ce que vous dites à M. Malonga qui a appelé de Bandundu-Ville?
Merci, bonjour à M. Malonga.
Parce que les deux décrivent la faiblesse de l'absence de l'État, il y a la négligence dans les contrôles.
Oui, c'est le constat qui est fait. Nous ne pouvons pas nous voiler la face pour dire que nous ne connaissons pas tout ce qui se passe au niveau de port. Mais je reviens pour dire, à l'époque où le secteur n'était pas libéralisé et qu'il n'y avait que ex-Onatra,
qui avait les monopoles dans les transports fluviales et lacustres,
la SNCC. Mmh. Tel que c'est stipulé dans le texte, chaque port doit être clôturé. Et les ports clôturés, ces services avaient leur police. Donc, ne pouvait avoir accès au port que celui qui présentait un billet, si c'était voyageur, ou il avait. Mais il doit justifier sa présence au niveau du port. Mais curieusement, ce que nous avons, c'est de manière péjorative, qu'on les appelle ports, mais ce sont des points d'accostage.
D'accostage et d'embarquement, tout
oui,
ça.
Oui. Il n'y a rien. Et tout le monde a accès et l'arbitre de passer. Alors, l'État, c'est l'État qui doit faire mettre de l'ordre. Mais si l'État lui-même vient, comme vous dites, je sais que les armateurs à l'intérieur, ils sont dépassés. Lui, il a prévu 20 personnes, il reçoit des listes, mais il doit satisfaire les autorités de la place pour ne pas avoir de problème. Il accepte, en dépit des textes et des lois, en dépit de lui-même. Donc, c'est un travail, nous disons l'État, mais l'État, c'est qui au fond?
C'est moi et vous. Ouais.
Donc, c'est là où on revient sur l'éducation de tout un chacun, et de la population, et de ceux qui ont cette charge de faire respecter les textes des lois. Donc, nous devons être...
Également de ceux qui font ces métiers-là.
Parce que vous êtes autorité, on vous respecte. Mais vous voyez de vue que cette embarcation est tellement chargée. Mais pourquoi vous insistez qu'on embarque vos gens? Pourquoi vous insistez? Parce que quand il y a accident, vous recherchez à arrêter maintenant le pauvre armateur, alors qu'au départ, lui, il a refusé.
Donc, s'il faut résumer la thématique, tout repose sur le respect de la réglementation, le respect des consignes de navigation pour réduire la fréquence des accidents, des noyades sur les cours d'eau de la RDC.
Comme je y allais dire à l'introduction, donc, il faut faire respecter les textes qui existent. Le secteur, ce n'est pas abandonné, le texte est régi par le texte qu'on peut revisiter, parce que la plupart datent de l'époque coloniale, mais nous pensons que ces textes sont encore en vigueur, mais si nous le respectons, nous allons réduire, on dit réduire les cas d'incidents et d'accidents. Nous ne disons pas qu'on va éradiquer.
Oui, mais on va réduire sensiblement des cas de noyades sur le cours d'eau de la RDC.
Voilà.
Je les considère comme votre dernier mot, monsieur Gabriel Mokango. Je rappelle que vous êtes directeur technique à la RVF.